Science Chrono, Antoine Beauchamp.
L'histoire de la psychiatrie ne serait sans doute pas la même sans un manuel diagnostique né aux États-Unis dans les années 1950, le DSM pour Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux. Aujourd'hui, dans sa cinquième version, ce manuel fait l'objet de nombreux reproches portant sur la rigidité de sa classification ou bien sur le risque de surdiagnostic lié à la multiplication des catégories de troubles mentaux. Science Chrono revient aujourd'hui sur l'histoire de ce DSM qui, au nom de l'objectivité scientifique, a fait craindre à ses détracteurs une certaine déshumanisation de la psychiatrie. Bonjour Steve Demazeux.
Bonjour Antoine Beauchamp.
Vous êtes philosophe, maître de conférences à l'université Bordeaux-Montaigne et vous êtes l'auteur aux éditions Ithac de deux ouvrages intitulés « Qu'est-ce que le DSM, Genèse et transformation de la Bible américaine de la psychiatrie ?» C'est paru en 2013 et d'un autre ouvrage « L'éclipse du symptôme, l'observation clinique en psychiatrie 1800-1950 » paru en 2019. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler de cette histoire tumultueuse du DSM et de ce que cette histoire nous dit de l'évolution de la psychiatrie et de notre rapport à la santé mentale. Pour entrer de plein pied dans ce sujet, je vous propose d'écouter l'archive qui va poser les termes de notre discussion. Il s'agit d'un extrait de l'émission Les Chemins de la Connaissance, animée par Jacques Munier en 2007 sur France Culture. On y entend le psychiatre Richard Rechtmann évoquer l'histoire de la troisième version du DSM qui, comme on va le voir, a marqué un tournant décisif dans l'histoire de la psychiatrie.
Alors pourquoi c'est né ainsi ? En fait, le DSM-3 est le pur produit, et ça va surprendre un certain nombre de personnes ici, mais c'est le pur produit de l'antipsychiatrie. C'est-à-dire que d'une certaine manière, la déconstruction faite par l'antipsychiatrie, montrant qu'on était incapable de classer des malades, et que finalement on pouvait mettre dans une classification psychiatrique aussi bien des malades que des déviants, que des gens qui posaient problème, eux se sont dit, nous allons apporter une preuve irréfutable que ceux que l'on classe sont vraiment malades pour éviter d'avoir des délinquants dans les hôpitaux psychiatriques.
Des homosexuels,
puisque ce sont les premiers à dépathologiser l'homosexualité. On va aussi servir la cause de ceux qui utilisent cela, c'est-à-dire les malades. D'abord, en soutenant la cause des mouvements de l'affirmative action du moment, c'est-à-dire aussi bien les mouvements féministes, les mouvements homosexuels, les mouvements ethniques, pour avoir une meilleure reconnaissance sociale, puisque la psychiatrie les en empêchait d'une certaine manière jusque-lors. Et puis on va surtout offrir aux malades mentaux des prestations, parce que grâce à cette classification, on est aux États-Unis. Le système
est différent,
totalement différent, il n'y a pas de sécurité sociale, il faut avoir une compagnie d'assurance, et puis c'est comme avec une assurance automobile, il faut que vous ayez prévu ce qui va arriver. Si vous n'êtes pas dans une des cases prévues, vous n'êtes pas remboursé. Avec une classification officielle, si vous avez un des troubles qui est prévu, vous êtes remboursé. Donc ça a été pensé comme étant au service des malades. Ça, c'est l'origine.
Voilà, Steve Demazeux, il y a beaucoup d'éléments intéressants dans cette archive. Moi, je retiens que le DSM-3 se met au service des malades, qu'il s'écrit dans un contexte de santé publique américain très particulier et qu'il se constitue contre l'antipsychiatrie. Qu'est-ce que vous retenez, vous, à l'écoute de cette archive-là ?
Cette archive est intéressante parce qu'elle a le mérite de pointer les deux aspects vraiment essentiels qui renvoient à la construction de cette classification d'un nouveau genre qui est le DSM-3. D'un côté, en effet, cette classification apparaît comme une tentative de répondre à une contestation en profondeur de l'institution psychiatrique. Il y a une crise de légitimité dans les années 60-70 de l'institution psychiatrique de manière générale, pas seulement aux États-Unis mais dans le monde. Et ce qu'on appelle l'antipsychiatrie, qui est un mouvement lancé par les psychiatres eux-mêmes et qui consiste à d'abord critiquer l'enfermement asilaire, mais aussi à remettre en cause les pratiques diagnostiques. Qu'est-ce que c'est que d'être un schizophrène ? Est-ce que c'est une vraie maladie établie de manière scientifique ou est-ce que c'est juste une étiquette qu'on colle sur le dos de personnes qui vont mal ou qui sont simplement mise au banc de la société. Et donc d'un côté, il s'agit de répondre par la science à cette critique antipsychiatrique, et de l'autre côté aussi, il s'agit de profiter de cette occasion pour essayer d'améliorer le service des malades. Et là, Rechtmann a tout à fait raison de pointer sur cette dimension très importante, dans la mesure où effectivement, aux États-Unis, il y a un problème qui est un problème éternel, qui se pose encore aujourd'hui, qui consiste à la difficulté de prendre en charge les patients qui souffrent de maladies mentales, qui souffrent non seulement de rejet social, mais aussi d'une mauvaise prise en charge dans un système qui est surtout dominé par les assurances privées. Et le problème avec les assurances privées, c'est qu'elles elles rechignent à rembourser des soins qui ne montrent pas forcément de preuves évidentes d'existence. Et, si vous avez diabète, si vous avez une jambe cassée, bon, vous pouvez prouver à votre assurance que vous êtes malade. Quand vous êtes dépressif ou schizophrène, c'est plus difficile. Et donc ça, c'était l'un des enjeux vraiment importants.
Et là, vous touchez du doigt l'un des aspects très importants quand on parle de maladie et de troubles mentaux, c'est que c'est difficilement objectivable. Aussi bien un cancer que du diabète, on peut l'objectiver et les symptômes sont les mêmes partout. Autant pour des troubles mentaux, c'est un peu plus compliqué. On va parler, bien sûr, du coup, de la mise en place de ce DSM. Je rappelle que c'est pas le seul manuel qui est utilisé en matière de diagnostic en psychiatrie. L'OMS aussi a son propre, a introduit les troubles mentaux dans sa classification internationale des maladies dès 1949. Il y a plusieurs comme ça manuels, mais le DSM fait figure un peu, on l'appelle souvent la Bible de la psychiatrie, et a une publicité toute particulière, et on va expliquer bien évidemment aujourd'hui dans Science Chrono les raisons de cette célébrité-là. Pour venir à la genèse, Steve Demaseux, de ce DSM, le premier sort en 1952, qui s'en occupe? Pourquoi est-ce que certains psychiatres américains se regroupent pour proposer ce manuel-là?
Bah, au départ, le DSM-1, hein, qui effectivement est produit après la guerre, est un manuel vraiment terne, sans grand intérêt scientifique. Il est surtout utilisé à des fins administratives dans des établissements de soins américains. Il est exclusivement américain, donc il est très peu connu. C'est un petit manuel d'une cinquantaine de pages et il a pas particulièrement de publicité. Ce sera le cas aussi avec le DSM-2 qui paraît en 1968. Ces deux classifications ne brillent par aucune originalité, elles sont assez consensuelles, très brèves, et elles ne remplissent aucune fonction vraiment ni scientifique, ni même médicale sur tout le territoire américain.
Il faut dire donc que c'est l'Association américaine de psychiatrie qui produit ces DSM-là, donc c'est une société savante et professionnelle de psychiatres. À l'époque, la psychiatrie est largement dans l'ombre aussi de sa cousine, la psychanalyse, de sa cousine proche. On peut peut-être situer ce bras de fer qui se joue à ce moment-là entre la psychanalyse et la psychiatrie, son pendant médical, on va dire.
Alors c'est ce qui va se jouer vraiment dans les années 50-60, c'est qu'au départ il y a beaucoup de connivence entre la psychanalyse et la psychiatrie de manière générale, hein. Ce qui domine à l'époque, à la sortie de la guerre, c'est la psychiatrie sociale. Il y a un vent d'optimisme. C'est ce qui est très particulier dans cette histoire, quand on fait l'histoire du DSM, hein, c'est de se rendre compte que justement la psychiatrie de cette époque est balayée par des vents contraires. C'est que d'un côté, il y a tout un nouvel optimisme qui apparaît avec la découverte de nouvelles molécules, de nouvelles techniques, de nouvelles méthodes, des découvertes importantes sur le cerveau, mais aussi sur l'environnement, le travail des sociologues main dans la main avec les psychiatres. Donc il y a beaucoup de choses nouvelles qui sont faites. Il y a aux États-Unis le NIMH qui est fondé après la guerre, en 1949. Qui va être un institut pour le financement des recherches psychiatriques, un institut extrêmement important et doté de moyens tout à fait considérables. Donc il va y avoir un vrai boom de la recherche en psychiatrie. Il va y avoir quelque chose qui a été historiquement très très important, qui est une décision de Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, en 1963, qui est le Community Mental Health Act, qui est en fait vraiment une loi extrêmement prometteuse de réforme de l'institution asilaire pour briser les murs, pour mieux soigner les gens
oui,
au sein de la communauté.
La psychiatrie, c'est ce qu'on appelle une psychiatrie de contrôle. Et
absolument.
On est proche de l'enfermement carcéral, pardon. Et bon, l'URSS à l'époque enferme les opposants, les réfusniques, en les qualifiant de schizophrènes et on les met en prison. Et comme ça, c'est bien simple.
Exactement. C'est pour ça que je parlais de vent contraire, parce qu'il y a tout ça à la fois. C'est que d'un côté, il y a un optimisme très grand tenu par Kennedy, par la volonté de faire plus de prévention, de mieux prendre en charge justement les gens qui souffrent de la maladie mentale. Et de l'autre côté, il y a des inquiétudes grandissantes, c'est qu'on se rend compte qu'on peut faire des usages politiques des diagnostics psychiatriques, hein, en URSS, mais pas seulement, mm-hmm. C'est aussi le cas aux États-Unis ou ailleurs. Il y a aussi des inquiétudes sur les techniques qui sont utilisées, la lobotomie, est-ce que c'est vraiment au service des patients ou est-ce que c'est au service de la répression
On pense au film Vol au-dessus d'un nid de coucou assez rapidement quand on
Exactement.
Pense à la psychiatrie des années 60.
En 1974, Vol au-dessus d'un nid de coucou montre vraiment l'aspect carcéral de la psychiatrie, les électrochocs. Voilà. Est-ce que ça guérit ou est-ce qu'au contraire, ça ne fait que calmer dans le mauvais sens les patients? Les médicaments, les nouveaux médicaments, est-ce que ce sont des camisoles chimiques ou est-ce qu'au contraire, ce sont des nouvelles molécules porteuses d'espoir pour les patients? Donc, il y a beaucoup comme ça d'ambivalence et il va y avoir surtout une critique sociale de plus en plus forte, portée par la contre-culture des années 60-70, où on s'interroge même sur le fondement des diagnostics psychiatriques. Mmh. Et donc, tout ça fait un bain très particulier, très singulier, qui est explique aussi la naissance du DSM.
Un bain dans lequel baignent ces psychiatres qui écrivent les deux premiers DSM, donc le deuxième paraît en 1968, jusqu'à ces deux versions-là, elles reprennent les deux grandes catégories qu'utilisent la psychanalyse de psychose et de névrose comme socle de catégorisation des maladies, des troubles mentaux. Le DSM-3 arrive un peu plus tard. Alors peut-être, avant de parler du DSM-3, quelle est la réception de ces deux premiers DSM? Est-ce qu'ils ont une certaine publicité déjà? Est-ce que le grand public s'y intéresse ou bien est-ce que ça reste une affaire de spécialistes?
Pas du tout, ça reste vraiment une affaire de spécialistes. Hein. Ce sont des classifications très syncrétiques. Justement, on y trouve ce qu'on veut un petit peu. Il y a beaucoup de considérations biologiques autour du cerveau, mais on a aussi des considérations psychanalytiques. Ce sont de brèves descriptions de maladies qui servent à des fins administratives. Et pendant longtemps, comme ça, le DSM n'est pas très bien connu des psychiatres américains eux-mêmes. Ce qui va changer la donne, hein, le premier grand acte de publicité, on l'entendait dans l'archive par laquelle on a commencé, c'est la dépathologisation de l'homosexualité. Donc ça, c'est un acte vraiment important, c'est un acte historique, une décision historique dont le DSM peut s'enorgueillir, puisque c'est cette classification qui, pour la première fois dans l'histoire, va sortir une maladie qui était considérée comme très grave pour considérer que, justement, ça n'est pas une maladie, mais une façon de vivre. Donc il va y avoir toute une querelle autour de l'homosexualité qui commence à la fin des années 60 et qui va vraiment se résoudre avec la décision prise par l'APA, hein, donc l'Association psychiatrique américaine, en 1973, de dépathologiser l'homosexualité. En réalité, ça se fera un peu progressivement, hein, mais en tout cas, le DSM-2, on est encore au DSM-2, introduit une nouvelle feuille pour bien signaler à tous les psychiatres américains que désormais l'homosexualité n'est plus considérée comme une maladie. Donc là vraiment il va y avoir quelque chose de nouveau puisque le DSM va apparaître progressiste. Il n'est pas du tout du côté de la répression, mais plutôt du côté des nouveaux droits, comme le disait aussi Reichmann dans l'archive. Et il va se mettre justement du côté des patients, de ceux qui souffrent, et non pas du côté justement de la répression policière.
On en arrive au DSM-3, donc qui est paru en 1980. On reviendra peut-être à cette année 1973, parce qu'il y a une... Bon, peut-être qu'on peut en parler dès maintenant. Allez, soyons gourmands. Mais c'est cette expérience de David Rosenhan qui vient justement battre en brèche le diagnostic psychiatrique et qui va se faire passer pour schizophrène, il fait croire qu'il entend des voix, et il se fait interner et les psychiatres n'y voient que du feu. Quatre autres de ses collègues font pareil dans quatre cliniques aux quatre coins des États-Unis, ils se font interner aussi alors qu'ils ne sont absolument pas atteints de schizophrénie. Quelle est la volonté derrière ce genre de d'expérience? Est-ce que là, à nouveau, c'est les psychologues, les psychanalystes qui veulent pointer du doigt le fait qu'on ne peut pas considérer un trouble mental comme une maladie au même titre que les autres?
Effectivement, l'expérience de Rosenhan est une expérience qui va vraiment marquer les esprits, dans la mesure où déjà elle est publiée dans une revue très prestigieuse, hein, la revue Science, et que ensuite elle est réalisée par des chercheurs confirmés. Soit dit en passant, elle sera contestée, hein, aujourd'hui. Il y a eu des travaux réalisés actuellement qui montrent aussi, dans sa méthodologie, elle n'était pas tout à fait honnête, et ni même dans ses intentions. Mais ce qu'elle va montrer, justement, ce qu'elle va mettre en doute, c'est la capacité des cliniciens en psychiatrie de poser des diagnostics qui soient solides, qui soient pas faits au doigt mouillé, qui soient pas le reflet de l'arbitraire ou de la subjectivité, mais qui au contraire reposent sur une argumentation solide. Et ça, les psychiatres ont du mal à le justifier pendant longtemps. Et d'une certaine manière, le DSM-3, avec justement ce dont on vient de parler, qui est la dépathologisation de l'homosexualité, et de l'autre côté, justement, la critique qu'il y a de la difficulté de poser des diagnostics, va vouloir tout mettre à plat, va vouloir, si vous voulez, dépasser les clivages par le bas. Mmh. C'est-à-dire, va chercher à décrire le plus simplement possible, avec les mots les moins compliqués, chacun des troubles mentaux. Donc ça va être la grande expérience, d'une certaine manière, expérimentation qui va commencer. Hein, le DSM se met en place dans les années 73-74. Ça va durer longtemps, pendant 6 ans. Et pendant 6 ans, il y a des experts qui vont se réunir et qui vont travailler à élaborer des critères pour essayer d'établir une classification qui n'a plus rien à voir avec la classification précédente.
Oui, là, on saute vraiment de plein pied dans la science quantitative, statistique, avec ce DSM-3, c'est pas tout. Pourquoi ce volume-là du DSM-3 est considéré quand même de façon assez générale comme une révolution dans l'histoire de la psychiatrie ?
Parce que c'est la première fois qu'autant d'argent et de temps est consacré à la mise en place d'une classification. Pendant longtemps, les classifications étaient réalisées par les grands professeurs, souvent sur le tard, qui essayaient de mettre un peu de l'ordre dans leurs théories. On pense à Kraepelin, on pense à des grands aliénistes français. Là, il y a quelque chose qui est déjà une entreprise collective, qui, comme je viens de le dire, dure 6 ans, qui va être appuyé par des moyens considérables. Il va y avoir des expérimentations qui vont être réalisées auprès des cliniciens, des premières tentatives de jeux de critères qui vont être testés en recherche clinique. Et donc, il y a quelque chose déjà dans l'entreprise même qui est tout à fait original et qui dépasse d'emblée ce qui est réalisé du côté de l'OMS. Mmh. On parlait tout à l'heure de l'OMS. L'OMS avait déjà sa propre classification statistique. C'était une classification consensuelle réalisée avec les moyens du bord par des médecins qui se regroupent à intervalles réguliers. Là, vous avez une association de psychiatres aux États-Unis, qui au départ vont pas trop s'embarrasser des autres pays, hein, c'est vraiment intra-américain, et qui essaie de réunir les meilleurs experts du moment pour se diviser le travail et essayer de fixer des critères précis sur chacune des catégories qui définissent le champ de la psychiatrie.
Et la psychiatrie, d'une certaine façon, avec le DSM-3, se détache de la psychanalyse. Les critères de névrose et de psychose disparaissent de cette catégorisation des troubles mentaux dans le DSM-3. On parle donc de l'importance de cette catégorisation. On va progressivement venir, bien sûr, au revers de la médaille quand on parle de cette catégorisation des troubles mentaux et de la difficile objectivation de ces troubles-là. On est dans les années 80, les États-Unis sont en état de grâce d'une certaine façon et jouissent d'une forme d'hégémonie culturelle sur le monde entier. La dimension culturelle dans l'expression de la maladie mentale, elle est capitale. Une dépression ne s'exprime pas de la même façon selon qu'on vit aux États-Unis ou en Afrique de l'Ouest, par exemple. Est-ce que cette dimension culturelle du trouble mental, elle est prise en compte dans ces versions du DSM-là ?
Alors, elle va être progressivement de mieux en mieux prise en compte, mais on pourrait dire au départ que c'est un petit peu le caillou dans la chaussure du DSM, cette dimension culturelle, dans la mesure où, effectivement, le DSM, au-delà de la question de l'hégémonie culturelle des États-Unis, hein, reflète d'abord une ferme conviction dans le modèle médical, dans le fait que les maladies, et en particulier les maladies mentales, sont des maladies universelles. Hein. L'étude pilote menée par l'OMS sur la schizophrénie qui montre qu'on peut trouver des schizophrènes dans la plupart des régions du monde. Et donc il y a quelque chose qui relève vraiment d'une croyance de plus en plus affirmée au sein de l'institution psychiatrique, qui est que les maladies mentales, ça existe partout, et que, évidemment, il y a des colorations culturelles, mais que c'est pas ça l'important. Et donc ça, le DSM, effectivement, relaie cette conviction forte, avec justement le succès qu'elle va connaître au fil des années 80 et des années 90, va se rendre compte que c'est pas tout à fait le cas.
Parce que le DSM-3, c'est un best-seller, il est traduit dès 1983 en France, exactement. Et pour le coup, alors que jusqu'à présent, ça se cantonnait aux frontières des États-Unis, le DSM-3 a vraiment un succès mondial.
Exactement, c'est un succès un peu inattendu. Alors, ils avaient mis beaucoup de moyens, donc ils espéraient que leur classification ait un impact et une influence sur le champ, mais ils ne s'attendaient absolument pas à ce que cette classification domine vraiment le champ psychiatrique au niveau mondial pendant les décennies à venir. Donc c'est quelque chose qui était d'une certaine manière inattendu et qui explique aussi certains revers.
Le DSM fait aujourd'hui l'objet de controverses qu'on va bien évidemment évoquer, mais est-ce que dès le DSM-3, des reproches commencent à surgir ? Est-ce que la controverse naît à partir de ce DSM-3 ?
Déjà, ce qui apparaît criant dès la publication du DSM-3, c'est que évidemment les psychanalystes comprennent tout de suite qu'ils font les frais du pari audacieux du DSM. Et le pari audacieux du DSM, c'est de dire, puisqu'il y a beaucoup de controverses, pas seulement avec les psychanalystes, hein, avec toutes sortes de théoriciens de la psychiatrie, puisqu'il y a des controverses sur les origines, l'étiologie, comme on dit, des maladies mentales, par exemple, pourquoi on est schizophrène ? Est-ce que c'est à cause de la société? Est-ce que c'est à cause du monde capitaliste, comme on le pensait encore dans les années 60? Est-ce que c'est lié au développement industriel? Est-ce que c'est à cause de ma mère? Est-ce que c'est l'étiologie familiale, comme c'est très très mis en avant par la contre-culture, notamment antipsychiatrique anglaise? Est-ce que c'est un gène qui est responsable? Est-ce que c'est le cerveau? Toutes ces théories sont vraiment développées par différentes écoles au sein même de la psychiatrie de l'époque. Et le DSM dit, puisqu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, on ne va pas du tout parler d'étiologie. On va se contenter de décrire le plus sobrement possible les tableaux cliniques. Donc, il n'y aura pas du tout de qu'est-ce que c'est que la cause de la schizophrénie, mais c'est quoi le tableau de la schizophrénie. Donc, on va décrire, on va donner des critères qui ne doivent pas être des critères arbitraires, mais des critères qui vont être partagés par les psychiatres et qu'il va falloir suivre pour poser un diagnostic de schizophrénie. Alors, évidemment, on parlait de la psychanalyse. Les psychanalystes ne vont pas se retrouver là-dedans, non pas tant parce que le DSM serait biologisant, il l'est moins que les versions précédentes. Dans le DSM-3, il y a beaucoup moins le mot cerveau que dans le DSM-2 ou 1, parce que justement, ils ne veulent pas parler d'étiologie. Mais par contre, ce qui est nouveau dans le DSM-3, c'est qu'il y a un interdit fondamental d'interpréter. Alors là, évidemment, ça ne plaît pas du tout aux psychanalystes, puisqu'il ne faut absolument plus interpréter dans aucun sens. Il faut juste essayer de décrire des phénomènes cliniques.
De décrire et de scinder aussi ces grands phénomènes. Vous parlez, alors bien sûr, la dépathologisation de l'homosexualité, mais on peut parler de l'hystérie aussi, qui éclate en fait en plein de critères différents. Il y a l'introduction aussi de nouveaux troubles comme le stress post-traumatique et le syndrome de traumatisme post-traumatique. Donc ça, c'est des choses qui sont très courantes aujourd'hui. Voilà, on en parle et c'est grâce, entre guillemets, au DSM qu'on en parle. Pour revenir au côté sombre, et en tout cas au reproche, à la controverse, il y a aussi la dimension, bien sûr, de plus on décrit de pathologies psychiatriques, plus on met en place finalement de traitements pour ces maladies-là. Et donc, en créant un surdiagnostic, d'une certaine façon, on va créer une surprescription de médicaments. L'industrie pharmaceutique, quel rôle elle joue, elle, dans cette histoire du DSM? Est-ce que depuis le début, dès les premiers volumes, elle a suivi les pas de ses psychiatres ou bien y est-elle venue un peu sur le tas?
Alors, c'est une question vraiment importante et difficile. Et je pense qu'il est vraiment central de pas chercher à trop vite y répondre. Effectivement, il y a une image d'Épinal qui consiste à lier l'histoire du DSM à celle de Big Pharma, c'est-à-dire de l'industrie pharmaceutique. C'est un raccourci et la réalité est bien plus compliquée. Ce qu'on peut dire, pour essayer tout de même de faire court, c'est que les débuts du DSM, il y a une forme d'indifférence réciproque entre l'industrie pharmaceutique, qui commence à être vraiment importante, les années 60-70, elle commence vraiment déjà, avec la vente d'anxiolytiques, etc., à inonder le marché américain, mais aussi mondial, de nouvelles molécules. Et donc, au départ, il y a une indifférence réciproque, c'est-à-dire que les auteurs du DSM, les experts impliqués dans le DSM, sont plutôt enthousiastes, mais comme le sont la plupart des psychiatres de l'époque, par rapport aux promesses des nouvelles molécules. Et de l'autre côté, l'industrie pharmaceutique ne voit pas bien l'intérêt d'une classification pour vendre ces molécules. Ce qui va vraiment changer, le moment où ça pivote, c'est les années 80-90.
C'est-à-dire DSM-4.
Voilà, exactement. C'est le DSM-4. C'est là où apparaissent d'ailleurs les grands scandales. Dans la mesure où...
Scandale de corruption,
d'influence. Alors, l'un des grands exemples, c'est Joseph Biedermann, qui est un pédopsychiatre très très influent, un grand expert des troubles bipolaire chez l'enfant et qui reçoit plus de 1 million de dollars d'honoraires de l'industrie pharmaceutique qu'il ne déclare pas. Et donc là, il va y avoir un conflit d'intérêts majeur qui va sauter aux yeux de tout le monde et qui va faire apparaître en fait une tendance de plus en plus massive de l'industrie pharmaceutique d'essayer d'influencer les experts qui sont recrutés au sein du DSM pour une raison très simple, c'est que soit pour vendre une molécule, soit vous construisez, vous fabriquez une molécule qui répond à une catégorie déjà existante, soit vous essayez de changer la catégorie existante pour mieux vendre des molécules. Ce qu'on appelle, en bon français, le disease mongering, la fabrication de maladies. C'est-à-dire, vous essayez d'élargir les critères et donc vous allez vendre plus de molécules. C'est exactement ce que va essayer de faire l'industrie pharmaceutique au fur et à mesure, en influençant de manière directe ou indirecte des experts recrutés au sein de la fabrication du DSM.
Alors, on en arrive malheureusement déjà bientôt au terme de cette émission. On aurait pu en parler une heure de cette histoire du DSM, Steve Demazeux. Peut-être qu'on peut conclure sur une note un peu plus générale, globale, sur Si on doit faire un bilan de ce DSM-là, quelle importance il a aujourd'hui dans la formation des psychiatres, dans l'histoire de la psychiatrie, qu'est-ce que ça a changé concrètement ?
Ce qui est très particulier avec le DSM, c'est qu'il y a une sorte de contraste très net entre, d'un côté, la fonction sociale inédite et extrêmement importante que va remplir cette classification dès les années 80. Elle va servir à toutes sortes d'usages. Ça va aller de la formation des médecins, à de la pédagogie auprès du grand public, à l'utilisation dans les cours de justice pour ou contre quelqu'un qui est attaqué ou au contraire pour le défendre. Ça va être utilisé pour répondre à la gestion des assurances privées ou des assurances publiques. Ça va être utilisé dans des tas d'usages, en recherche aussi. Mais la contrepartie de cet usage massif et important du DSM, c'est sa grande fragilité scientifique, puisque dès les années 80, on a quand même conscience, les experts eux-mêmes qui ont fabriqué la classification, ont conscience que voilà, c'est un petit peu artisanal, que ça manque de validité scientifique, et cette question de la validité scientifique, hein, le DSM va traîner ça comme un boulet jusqu'à aujourd'hui, dans la mesure où le DSM-5, là encore, est fragilisé hein, au sein même de l'institution psychiatrique pour son manque de validité.
Et on en revient bien sûr à la complexité de ces troubles eux-mêmes qui ne sont pas que le fait d'une culture, ni le fait biologique d'un cerveau dysfonctionnel. Et c'est, là, finalement, ça incarne bien toute la difficulté qu'il y a à étudier ces troubles mentaux. Merci beaucoup, Steve Demazeau. Je rappelle les titres de vos livres parus aux éditions Itac, Qu'est-ce que le DSM et l'éclipse du symptôme. Merci beaucoup d'avoir été pour nous l'exégète de cette Bible de la psychiatrie.
Merci à vous.
Schizophrénia par Sonic Youth. Pour conclure cet épisode de Science Chrono, un grand merci à Alexandre Morales et à la réalisation Hélène Trigueros. Merci à Sabine Dahuron de l'INA, notre partenaire, qui nous a accompagnés dans les mois derniers dans la recherche d'archives et qu'on salue. Merci à Ludovic Auger, enfin, à la technique. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono.